Bonjour et bienvenue au Minter's Dialogue, émission numéro 83. Cet entretien est avec Nicolas Chabot, en charge de Tracker pour EMEA. Tracker, créé en 2008 par deux Français installés aux États-Unis, est un outil pour aider à élaborer des stratégies d'influence en ligne, visant des agences de communication et des marques qui souhaitent identifier et gérer leurs influenceurs. Tracker propose une solution vraiment intéressante. Avec Nicolas, nous discutons également de comment mieux gérer ces influenceurs et les particularités du marché français. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue.
Bienvenue au show radio Minter Dialogue. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un bon podcast sur le sujet digital. Aujourd'hui, je suis en direct avec quelqu'un qui s'appelle Nicolas Chabot. Explique-nous qui tu es et ce que tu fais.
Bonjour Minter.
Bah, enchanté.
Enchanté d'être avec toi. Je m'occupe du développement en Europe de Tracker. Tracker, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui a été créée aux États-Unis par deux Français et qui est le pionnier du marketing d'influence. Nous aidons les marques et les agences à exécuter toute leur stratégie d'influence online.
Alors pourquoi est-ce que Tracker a été créé aux États-Unis?
Et il a été créé aux États-Unis parce que je pense que c'est quand même le territoire sur lequel l'innovation est portée. On le sait tous et c'est plus facile d'innover là-bas. On a beaucoup plus de facilité, que ce soit en termes de la part des clients, de la part des investisseurs. Donc ces deux Français étaient là-bas, ils se sont rencontrés et ils ont pu mener à bien leur projet là-bas. Mais la société finalement est complètement américaine.
Alors, Tracker, donc on va travailler sur l'influence. C'est quoi l'influence?
L'influence, c'est la capacité de faire penser ou faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas pensé ou fait autrement.
Alors, pour Tracker, on est bien en train de travailler plus sur le digital, n'est-ce pas?
Nous, on travaille sur le digital et ce qu'on sait, c'est qu'avec le développement des réseaux sociaux, cette capacité d'individu à influencer la masse des gens a changé de dimension. Jusqu'à présent, l'influence avait déjà existé, mais elle était aux mains soit de nos proches, et ça c'est toujours le cas, soit aux mains de quelques journalistes qui étaient dans les médias. Aujourd'hui, cette influence, elle s'est dispersée, elle s'est aussi spécialisée à l'intérieur de communautés bien définies, et évidemment, cette dimension a complètement changé la donne.
Quand on regarde, donc, pour ceux qui écoutent, ils savent bien qu'il y a des concurrents qui se disent mesurer l'influence. On va parler de Cloud, Cred, Peer Index et compagnie. Quelle est la différence de Tracker?
Nous travaillons vraiment dans la compréhension de l'influence dans un domaine contextuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, les outils qui mesurent juste la popularité par un score unique n'ont absolument rien à voir avec l'influence. On mesure une certaine popularité sur les réseaux sociaux. Mais là n'est pas le sujet. L'influence, elle se définit par rapport à la capacité de certains individus à avoir développé une autorité, une crédibilité dans des sujets précis. Et c'est là que Tracker apporte une approche nouvelle parce que nous identifions les individus qui ont été les auteurs, ont publié des contenus sur des sujets très précis. On est vraiment capable d'identifier les gens qui ont un impact sur des conversations précises. Ce n'est pas du tout le sujet de Cloud, Cred ou Peer Index, qui sont des outils de social scoring et qui en fait utilisent les réseaux sociaux pour des campagnes de marketing direct, de couponing, ce qui est aussi très intéressant mais qui a vraiment rien à voir avec l'influence.
Je pense qu'ils font un peu plus que le couponing, mais ils sont en train d'évoluer et ils ont tous essayé de répertorier des segments. Ils donnent un score, mais sur des catégories maintenant. Enfin, quant à Cred, par exemple, ils ont des 8 catégories, quelque chose comme ça, où ils mettent un score. Cloud essaie également de dire, voilà, ben, on définit que vous avez un meilleur influence sur une certaine rubrique. Donc, ils essaient peut-être de faire quelque chose semblable. Comment est-ce que vous faites une longueur distance par rapport à ça?
Moi, bon, je ne crois pas que l'objet du podcast, c'est vraiment de mettre en lumière les limites de ces outils. Mais je crois que chacun, s'il s'est connecté à Cloud ou au Cred, c'est à quel point c'est leur vision contextuelle est vraiment pas leur point fort. Et finalement, c'est pas vraiment leur modèle économique et c'est pas ce qu'ils vendent aux agences. Mmh. Donc, je crois que là-dessus, on a une approche qui est très différente. Notre approche est vraiment celle d'un moteur de recherche. Mmh. Pensez à Tracker comme un Google for People. Mmh. De la façon, en fonction de vos mots-clés, du contexte que vous définissez, là où Google va chercher des pages web, nous, on va chercher des individus. Donc, on est vraiment sur quelque chose de finalement très différent de ce que font Cloud et Cred. Le seul point commun, c'est que nous aussi, à un moment, à l'intérieur de notre méthodologie, on fait du social scoring pour comprendre qui sont les individus qui ont les réseaux les plus engagés. Et là, finalement, s'arrête la comparaison.
Ouais, alors, en fait, je dis ça parce que il y a des points de comparaison, les gens ont ces références-là. En revanche, ce que je voudrais comprendre mieux, et je pense intéressant, c'est de vraiment bien saisir comment est-ce que Tracker fonctionne, parce que là, il y a la différence.
Tracker fonctionne en identifiant des personnes et en les classant en fonction de 3 scores que nous calculons, que nous appelons les 3 R, que d'ailleurs Brian Solis a repris dans une de ses publications l'année dernière sur l'influence.
Je le mettrai ça dans les show notes, si tu me le donnes.
Voilà. Et donc ces 3 R sont Reach, Resonance et Relevance. Reach est une mesure de la taille de l'audience de cet individu à travers l'ensemble des plateformes qu'ils utilisent. Resonance est une mesure de l'engagement de cette audience, c'est-à-dire quelle est l'activité que génère le contenu publié par cette personne. Et là, on parle de retweet, de link packs. Et relevance, le dernier score, est le score contextuel. Et là, on va essayer de comprendre dans quelle mesure cette personne a publié des contenus originaux qui sont pertinents pour nous. Et c'est vraiment la mesure, c'est ces 3 scores qui nous permettent de classifier nos influenceurs. Mais ce qui est important, c'est que ces scores et ce classement changent à chaque recherche. Personne n'a un score. Parce que vous, Minter, vous allez être peut-être très haut classé si je parle d'influenceurs en marketing digital.
Ça dépend.
Mais si je cherche des influenceurs en cuisine vietnamienne, peut-être moins. Cette idée d'avoir un score unique qui mesure l'influence, à nous sommes complètement absurdes. Mmh. Et ce qui est important, c'est pas le score. Ce qui est important, c'est le classement des gens qui ont le plus d'impact sur le sujet qui m'intéresse.
Quand vous regardez donc les activités, vous avez les médias sociaux, mais dites-nous quels sont les autres que vous englobez dans la recherche quand je mets mon mot-clé ou je regarde dans un secteur.
Alors nous essayons d'avoir la vision la plus large possible et nous établissons le profil des influenceurs en incluant l'ensemble des plateformes sociales qu'ils utilisent. Maintenant, notre capacité à capturer du contenu dépend de deux choses. Un, est-ce que ce contenu est public? Donc, par exemple, nous ne capturons pas le contenu privé chez Facebook, mm-hmm. puisqu'il est privé. Et deuxièmement, est-ce que ces plateformes sont capables de fournir des APIs que nous pouvons rechercher? Aujourd'hui, par exemple, même des plateformes qui sont en train d'exploser, comme Pinterest ou comme Instagram, ont des API et des systèmes de tagging qui sont encore très limités et qui rendent donc très compliqué l'agrégation de contenu. Donc nos limites sont celles-ci. L'information doit être publique et les plateformes doivent avoir des API performantes qui nous permettent d'y accéder. Mais le monde change et régulièrement nous ajoutons des nouvelles plateformes, nous ajoutons des nouvelles fonctionnalités et dès que cette information est disponible, nous l'intégrerons dans notre scoring et dans notre évaluation.
Pour être dans le back office de chez Tracker, à combien, donc en t'écoutant, est-ce qu'il y a une vraie guerre sur l'accès à ces API? Est-ce que c'est un guéguerre comme dans les bonnes guerres ou c'est tout le monde a accès au même moment? Comment ça se passe?
Écoute, je ne suis pas moi-même le mieux placé chez Tracker pour savoir ce qui se passe sous la table. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être une des raisons pour laquelle être basé à San Francisco fait la différence. C'est-à-dire que la Silicon Valley, c'est aussi un monde de réseaux, c'est un monde de connaissances, c'est un monde de gens qui travaillent ensemble. Et peut-être que les API ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Cool, je comprends. Alors, sur la résonance, tu parlais des 3 R tout à l'heure. Sur la résonance, on va parler de combien de partages se sont faits par rapport à une activité, un contenu partagé, de retweets, commentaires, etc. Est-ce qu'il y a un bon raisonnement pour donner des valeurs différentes par rapport à chaque moyen de partage? C'est-à-dire un retweet par rapport à un like, par rapport à un partage ou un commentaire positif ou négatif. Quelle est votre philosophie par rapport à ça? Et est-ce que tu penses que ça a un sens? Et comment on gère ça quand on est une marque?
Écoute, c'est vraiment une question qui prête à énormément de discussions.
C'est l'idée.
Nous, chez Tracker, on a notre vision, c'est que notre scoring, il est dynamique. On apprend tous les jours, nos clients créent des milliers de recherches tous les jours, et chaque fois qu'un client crée une recherche, qu'il ajoute des gens, qu'il enlève des gens de sa recherche, on apprend sur la qualité des résultats qu'on trouve, et ça nous permet d'ajuster notre algorithme en continu. Donc notre argument, il est un petit peu comme Feed Google, il peut changer toutes les semaines, et la qualité de nos recherches, c'est aussi le résultat des milliers de recherches qu'ont fait nos clients sur Tracker. Maintenant, par rapport à ça, notre opinion, c'est que ce qui compte, c'est le classement des gens. D'accord ? C'est comment est-ce que les gens se positionnent les uns par rapport aux autres. Et donc, l'important, c'est d'avoir une méthodologie qui soit commune pour l'ensemble des individus qu'on est en train de regarder sur un secteur donné, pour essayer d'avoir la vision la plus juste possible à un moment T de ce que peut être leur résonance ou leur reach. Maintenant, Minter, ne nous cachons pas, on n'a jamais eu autant de données et on continue à apprendre comment les utiliser. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur? Donc voilà, tout ça est très dynamique.
C'est à nous de concevoir et d'inventer. Alors pour Tracker, c'est quoi le modèle économique, Nicolas?
Tracker, c'est une plateforme qui est disponible sous forme d'abonnement. Imaginez un Google payant sur lequel, en fonction du nombre de communautés que vous voulez identifier et suivre, votre niveau d'abonnement va évoluer. C'est un modèle très simple.
Et les clients?
Les clients sont à 70% des agences, et des agences qui sont en train soit d'amorcer significativement leur transformation digitale. Nous travaillons avec toutes les grosses agences de RP américaines. Travaillons de façon aussi croissante avec les agences digitales qui sont en train d'inclure l'influence comme une de leurs briques dans leur marketing digital. Et de plus en plus de marques sont en train de s'intéresser à nous, de demander à nous rencontrer, parce qu'elles sont en train d'intégrer elles-mêmes la gestion, d'internaliser la gestion de leur présence sociale, et Tracker les accompagne sur ce chemin.
The Jim Stroud Podcast explores the discoveries and trends forming the future of our lives. Brain-to-brain communication, robot bosses, microchip implants for workers, and artificial intelligence replacing human workers are all happening now. If you want to know what's happening next, subscribe now to the Jim Stroud Podcast.
Quand une agence prend Tracker et le vend une marque, il le fait sous marque blanche ou il garde Tracker et ça l'intéresse de garder la marque Tracker?
Je crois qu'il y a autant d'agences que de modèles. Certaines agences vont jusqu'à inclure la marque Tracker dans leur pitch parce qu'elle leur permet de transmettre aux clients le professionnalisme et le côté technologique de leur proposition. D'autres préfèrent utiliser Tracker sans que ce soit visible pour le client. Je crois que là, chacun a sa philosophie.
Vous le permettez, en tout cas. Alors, Nicolas, mettons à côté l'outil en lui-même. Tu es patron d'une marque et tu te dis que l'influence est importante. Quels sont les conseils que tu lui... Enfin, je le suis. Et toi, tu me conseilles, je le suis peut-être le patron d'une marque. Comment tu me conseilles de améliorer, approfondir, optimiser une stratégie et chercher des influenceurs.
L'influence est partout. Il y a un ami qui s'appelle Philippe Sheldrake qui a écrit un livre sur le business of influence. Tu connais Philippe, et dont le sujet est justement celui de démontrer que l'influence tombe à l'ensemble des processus de l'entreprise. Et nous, chez Tracker, on voit bien qu'on travaille à la fois chez les gens qui sont dans la réputation, les gens qui sont dans les business insights, parce que le social insight, c'est aussi très important dans le marketing. On a des gens qui sont dans les sales, en B2B, qui utilisent l'influence. Donc, on peut vraiment toucher à énormément de domaines. Maintenant, je crois que le domaine le plus puissant est celui sur lequel je crois que les marques doivent vraiment commencer à travailler très sérieusement, c'est comment ce marketing d'influence doit s'inscrire dans leur mix de communication globale. Et comment, à l'intérieur de leur mix de médias, à côté de leur investissement en médias traditionnels, leurs médias digitaux, en display, en search technology, leur investissement social, qui aujourd'hui excessivement concentré sur les grosses plateformes que sont Facebook et Twitter, parce qu'ils donnent des produits finalement assez intégrés, packagés. Il y a un énorme monde autour du web social d'influence auquel sont confrontés nos consommateurs le long de leur customer journey. Et aujourd'hui, tout ce monde d'influence-là est extrêmement maltraité par les marques. Et je crois qu'aujourd'hui, le gros sujet, c'est comment est-ce que je peux développer une politique d'influence cohérente, structurée, organisée, qui me permet d'intégrer cette dernière brique à l'ensemble de mes outils de communication digitale.
Me conseillerais-tu d'avoir un patron d'influence ?
C'est ce que Philippe Sheldrake recommande. Il recommande d'avoir le Chief Influence Officer. Donc peut-être de façon plus opérationnelle, certaines marques commencent à développer des Advocacy Directors. Des gens comme Nokia, même des gens comme Nestlé ont des advocacy programs extrêmement structurés. Donc je ne sais pas s'il y a un influence directeur ou de nombreux influence directeurs, mais clairement je crois que tout ce processus d'influence a besoin d'être structuré à l'intérieur des organisations.
Oui, parce qu'en fait, si on revient sur Tracker, le souci c'est que l'influence se passe au dîner hier soir entre potes. Ça se passe parce que j'écoutais un journaliste, donc il y a tout ce omni-influence qui se passe, et qu'avec Tracker, on est plutôt sur l'axe digital, et donc le Chief Influence Officer doit pouvoir à la fois regarder en ligne, mais aussi ce qui se passe dans le vrai, à la télé et ailleurs.
Bien sûr, et puis n'oublions pas que les grands facteurs d'influence pour une marque, ce sont ses employés, qui sont porteurs de son image. Et puis, évidemment, ce sont ses clients, d'abord. Donc, c'est tout le CRM qui doit être intégré dans cette vision. Pour les retailers, évidemment, la présence sur le point de vente et l'expérience de point de vente est primordiale. Donc, voilà, repensons encore à tous les touchpoints des clients avec notre marque et notre organisation, et on aura la vision holistique de ce que peut être l'influence.
Alors, à ce sujet, excellente question. Enfin, excellente, tu me fais penser. L'influence des employés, est-ce que Tracker est un moyen qu'on peut utiliser pour aller chercher et comprendre les employés les plus influents également ?
C'est une bonne question, et plusieurs marques nous ont demandé à savoir si on pouvait utiliser Tracker pour identifier sur leur propre réseau interne les employés qui, sur des sujets particuliers, pourrait être des opinion drivers à l'intérieur de l'entreprise. Je crois que c'est un grand sujet. Aujourd'hui, chez Tracker, on n'a pas encore développé cette fonctionnalité de se connecter chez Yammer, chez Chatter et d'essayer d'identifier à l'intérieur de ces réseaux. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en utilisant les mêmes méthodologies que celles qu'on utilise sur les réseaux publics.
En fait, à quoi je pensais, c'était moins la capacité sur un réseau interne d'être influent, d'être un community manager en interne, et plus le fait d'avoir un employé qui a une résonance personnelle en dehors quelque part, qui donc parce qu'on a des influenceurs qui en sont à l'extérieur, word of mouth qui passe, etc. À l'intérieur, j'ai une communauté, imaginons, de 10 000 employés, ou enfin 50 000, je sais pas, sur ces populations, il y a des bloggers, il y a des gens sur Twitter, à leur propre titre ou pas. Et il y a quand même, ça c'est tout un autre chantier, c'est de bien gérer, participer, accompagner ces employés qui sont finalement vecteurs forts et ont une influence aussi bien en interne quelque part, mais aussi à l'externe.
Oui, tu as raison. Reste à savoir si sur quel sujet sont-ils influenceurs. Moi, quand on dit influenceur en général, pour moi, ça veut rien dire.
C'est ton vietnamien, ton cooking vietnamien. Voilà. Voilà.
Donc, si j'ai un nom, moi, si je suis chez IBM et que j'ai un employé qui est influenceur sur la cuisine vietnamienne, je ne sais pas quel est l'impact que ça peut avoir sur mon business. Évidemment, si par contre j'ai quelqu'un qui commence à parler de cloud computing et de sujets qui sont directement liés à sa vie professionnelle, oui, je crois que c'est important de le connaître, c'est important de le savoir. Il y a aussi, derrière le côté positif que ça peut entraîner, beaucoup de risques pour l'entreprise et il y a beaucoup aujourd'hui de discussions sur les codes de comportement sur les réseaux sociaux, mais on rentre encore dans une autre discussion.
Oui, je trouve ça fascinant parce que là, il y a le flicage, il y a le Big Brother, et puis on me guette dans ma vie personnelle, et puis ça. Alors, parle-en de ça. Par rapport aux États-Unis que tu connais et la France qui fait partie de tes territoires, comment est-ce que tu vois la différence, la manière de gérer les influenceurs?
La France est un paysage très particulier pour plusieurs raisons. Les agences sont extrêmement éclatées et fragmentées avec énormément de petites agences.
Tu parles des agences digitales parce qu'il y a quand même des gros français, agences françaises qui dominent quand même.
Oui, malgré tout, si tu regardes les statistiques, au-delà de cette concentration de la présence de Publicis et de Havas, malgré tout, les budgets, les agences sont extrêmement fragmentées en France, beaucoup plus en tout cas que dans le monde anglo-saxon. Un deuxième phénomène important qui est assez unique à la France, c'est que la blogosphère en France a explosé très tôt. Et donc très vite, quelques blogueurs stars ont émergé, ont été considérés comme des journalistes. Et finalement, de façon assez paradoxale, cette vision de l'influence est rapidement figée en disant finalement il y a un autre type de journaliste qui existe, ce sont ces blogueurs. Et aujourd'hui, on est dans une situation où la gestion de l'influence est devenue très artisanale. On connaît ces influenceurs, on les connaît depuis 5 ans, depuis 6 ans, on travaille toujours avec les mêmes. Et je crois que alors qu'on était parti peut-être avec une certaine avance, une certaine créativité, on est resté très bloqué sur cette vision traditionnelle où le blogueur est devenu l'équivalent d'un journaliste, mais finalement avec son propre média. Là où les anglo-saxons ont compris que ce monde était extrêmement dynamique et qu'il y avait vraiment un besoin d'apporter des outils en termes de ROI, de suivi, qui permettaient de faire de cette discipline non pas une simple prolongation des relations avec les journalistes, mais un vrai outil de marketing pour les marques. Et là, je crois qu'on est en train de prendre un petit peu de retard en France. Peut-être est-ce dû aussi à un troisième critère qui fait que les agences de relations publiques, qui ont, dans les pays anglo-saxons, ont un rôle beaucoup plus stratégique sur les marques, ont été assez moteurs dans cette démarche, sont en France et dans les pays latins en général beaucoup moins stratégiques et beaucoup moins actives. Et là, elles n'ont pas joué leur rôle.
Alors, je reviens sur mon poste imaginé de patron en marque. Comment est-ce que tu es en France? Comment est-ce que tu me conseilles d'aller être mieux par rapport à ça?
Excuse-moi?
Comment est-ce que tu me conseillerais d'aller mieux gérer les influenceurs? Car le monde en France, ce que tu me disais, c'est qu'il n'y a pas tant d'influenceurs. Comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus par rapport à cette différence?
Je crois qu'une bonne approche pour commencer, c'est de définir trois types de communautés d'influenceurs. Je crois que l'idée de commencer par mes super fans, c'est une bonne idée. On en a parlé ensemble. Air France le fait très bien. Ils ont identifié leurs super fans sur la marque Air France. Ils les chouchoutent, ils les connaissent, ils les suivent. Et je crois que c'est un bon point de départ. Mmh. Et ces gens-là, ils sont assez faciles à identifier. Ils sont sur ma page Facebook, ils sont sur mon compte Twitter, ils sont actifs, ils citent mon hashtag. Donc je crois que ça, c'est un bon point de départ. La deuxième étape, c'est de commencer à étendre ma vision, essayer de comprendre quels sont les gens qui sont influents à l'intérieur disons, de la communauté qui tourne autour de mon produit. Hein. Et quand je suis dans l'automobile, quand je suis dans l'électronique, quand je suis dans le parfum, on a des communautés qui sont regroupées très fortement autour de ces produits. Et ces gens-là, ils font partie de mon écosystème. Ça, c'est là l'étape, je dirais, basic. Maintenant, là où ça devient extrêmement intéressant et vraiment porteur d'image pour les marques, c'est quand je peux utiliser des réseaux d'influence pour aller développer des nouvelles marques ou des nouvelles valeurs autour de mon produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Levi's va aller chercher des influenceurs qui sont dans le urban cycling ou dans la reggae music, ils sont sortis des influenceurs qui sont dans la mode et qui parlent du jean, et ils vont aller associer leur marque à d'autres univers qui vont contribuer à se développer vers d'autres types de clients, vers d'autres consommateurs, tout en enrichissant ce qu'est le patrimoine de valeurs et d'émotions qui sont associées. Et là, c'est là où je crois qu'on utilise la puissance de ce marketing d'influence, à son maximum, parce que ces gens-là qui parlent de urban cycling, qui parlent de reggae music, ce sont des passionnés, leur audience est passionnée, et si j'arrive à associer ma marque à l'intérieur de ces univers-là, ce que je suis en train de créer est vraiment pour le long terme.
Tout en sachant que la manière qu'on doit les aborder, c'est avec un respect de leurs valeurs, des codes de chaque groupe. Donc, c'est pas n'importe qui, si je suis dans une marque corporate, qui est capable de gérer ça. Donc, il faut trouver des bonnes personnes qui ont la bonne patte, le bon langage, qui a une certaine douceur de s'inscrire dans leur communauté sans arriver un peu brutalement.
Bien sûr. Et puis, c'est pas facile. Ces gens sont très sollicités. Ce qui est intéressant, c'est quand une marque commence à parler à des influenceurs qui sont pas dans le cœur de sa cible, elle est souvent assez innovante, elle a un discours nouveau, elle va créer de l'intérêt, donc l'activation, l'engagement va être plus facile. Et certaines des marques ou des agences les plus innovantes sont en train de développer des approches en termes de co-création qui sont vraiment intéressantes, parce que la vraie question, c'est quelle est la valeur que j'apporte à cet influenceur. Pas seulement quelle valeur cet influenceur va m'apporter à moi, ce que je comprends assez vite, mais les marques doivent vraiment se poser cette question importante. Et aujourd'hui, il y a des actions de co-création qui sont vraiment intéressantes, dans la mesure où on va créer un contenu partagé entre la marque et l'influenceur. La marque va apporter ses propres actifs. Potentiellement, la marque va apporter des budgets en termes de production, en termes de facilité. L'influenceur va apporter sa vision, sa sensibilité.
Et sa communauté.
Sa communauté. Et ça, ça peut être des partenariats gagnant-gagnant. Mais il faut vraiment travailler avec ces individus pour créer quelque chose qui va aller au-delà de la simple mention sur un blog post qui va finalement être toujours assez décevante.
C'est bien vu, Nicolas. Alors, Nicolas, Tracker, je suis une marque. Comment ça se passe? Il y a une fourchette de prix, tu peux me dire? Ou sinon, en tout cas, comment ça se passe pour engager Tracker?
Alors, pour engager Tracker, concrètement, le mieux, c'est d'aller sur notre site web, sur tracker.com, et de demander une démo, et puis on se mettra en contact avec vous. Le problème aujourd'hui... des marques, c'est pas le coût de la technologie. Tracker, ça coûtera pour une marque entre 10 et 50 000 euros par an. Le coût, il est pas là. Le coût, c'est quelles ressources est-ce que je vais mettre sur mon contenu, quelles ressources je vais investir vers mes influenceurs. Exactement. Et dans mon engagement. La technologie, c'est un cost saving. C'est pas un coût.
C'est beau. Et Nicolas, comment est-ce qu'on peut te contacter ou te suivre, toi?
Alors moi, vous pouvez donc me contacter soit sur le site, et puis vous pouvez me suivre personnellement soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, @NicoChab.
Voilà, très bien, ben, content de t'avoir, merci d'être sur le show, et on comprendra mieux Trackerman.
Merci Minter, à bientôt.
Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Lorne de Laura Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoopit, Gilles Barbier, PDG de Dimaou, ou encore Eric Blau, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon Twitter français, MDIALFR, ou bien sur MDIAL, où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone,
themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.
I'm a grown-up.
Me too.
Yep, me too. But you know, these days, being a grown-up can really suck.
Luckily, we're grown-ups who grew up in the coolest generation.
We had video arcades.
And also some of the best TV and movies ever made.
We lived the origin of awesome consumer electronics. The list goes on and on.
Yep, Generation X.
Exactly.
And we're Gen X grown-up.
Every week, the Gen X grown-up podcast explores media, tech, toys, games, and more from both yesterday and today.
Through the eyes of Generation Xers who absolutely love that stuff. You can find us on iTunes or wherever you get your podcasts.
Or find us on our website, GenXGrownUp.com. Life sucks as a grown-up. All right, you think that was good enough?
I hope so, man. I'm tired.
Who listens to a promo on a podcast and then goes and listens to a different podcast?
Right.
I've never done it.
No. Right.